parti pour un dimanche de campagne à 10 semaines, tout juste du premier tour de la présidentielle. Au programme ce soir, les résultats de la primaire populaire qu'on espère avoir d'ici 19h, mais c'est sans garantie. Cela dit, de toute façon, il en sera question dans la dernière partie de cette émission. Nous rejoindrons d'ailleurs Antoine Gignot qui s'apprête à suivre la conférence de presse des organisateurs de cette consultation totalement inédite. À nos côtés ce soir pour commenter l'actualité, Rachid Lahiresh, bonsoir.
Bonsoir.
Du journal Libération, vous suivez plus particulièrement la gauche.
Les gauches.
Les gauches, et ben oui, c'est vrai que c'est pluriel.
Il y en a beaucoup.
Lorraine Dupont, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice adjointe de la rédaction de l'Express. À mes côtés comme tous les dimanches, Thomas Legrand et ses fameux bobineaux. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Ce soir, l'extrême droite et la droite nationale avant Jean-Marie Le Pen, ainsi Jean Royer en 1974. Jean Royer ou une certaine idée de la femme.
Je voudrais aussi m'adresser aux épouses, aux mères de famille, aux jeunes filles, pour leur dire à quel point elles sont l'âme de nos familles.
Voilà, c'était donc avant la saga Le Pen, une famille qui n'en finit pas de se déchirer. Dernier psychodrame en date, Marion Maréchal, qui pourrait lâcher sa tante Marine, qui accuse le coup.
J'ai avec Marion une histoire particulière. C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
Au sommaire également, au like citoyen, avec Jean Massier. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Chroniqueur politique sur Twitch, qui suit donc plus particulièrement les réseaux sociaux. Bonsoir Jean, ce soir le programme.
Le programme, je vais vous parler de ces influenceurs et influenceuses qui se saisissent de la politique à l'occasion de cette présidentielle, en allant même jusqu'à interviewer des candidats.
À ne pas rater non plus la semaine politique de Cyril Lacarrière. Ensuite, on s'arrêtera plus précisément sur le cas des deux candidats qui ont présenté leur programme cette semaine, Fabien Roussel et Yannick Jadot. On évoquera aussi la phrase bien énigmatique de François Hollande sur une éventuelle candidature. Quant à Emmanuel Macron, il ne s'est toujours pas déclaré, mais ses équipes sont déjà à pied d'œuvre. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Merci à Stéphanie Texier qui a préparé cette émission. Merci à David Leprince qui la réalise à la technique, Benjamin Troncin et à la rédaction en chef, Cyril Lacarrière.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Et on commence avec les déclarations politiques du week-end, avec à la une le désarroi et la colère de Marine Le Pen. Alors que sa nièce Marion Maréchal laisse clairement entendre qu'elle pourrait rejoindre Éric Zemmour, la candidate du RN était à Madrid hier pour une réunion des extrêmes droites européennes. À cette occasion, l'eurodéputé RN Nicolas Bay, qui l'accompagnait, a refusé de dire s'il resterait avec elle jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au premier tour. C'est peu dire que Marine Le Pen n'a pas apprécié.
Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est la taqiya, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. La taqiya, c'est la dissimulation. Je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français. Et avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable.
Insupportable d'être lâché par ses troupes. Nicolas Bay est le premier vice-président du groupe Identité et Démocratie du Parlement européen. Sa défection serait un coup dur de plus pour Marine Le Pen. Pour l'instant, il est là, mais il refuse de dire ce qu'il fera plus tard. Mise au point de l'intéressé lors du grand jury sur LCI aujourd'hui.
Je ne crois pas avoir de leçon de loyauté à recevoir de qui que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Et vous la soutenez.
J'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans six mois, dans un an, d'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle, il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant je ne considère pas que Éric Zemmour est un ennemi. Quand on veut rassembler, je pense qu'on ne commence pas par indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens.
Voilà pour ces déclarations du week-end à l'extrême droite. Thomas Legrand, un premier commentaire pour Marine Le Pen, c'est grave ou c'est pas grave ce qui se passe?
Je suis pas certain que ça soit très grave politiquement et je suis assez intrigué et amusé par la stratégie pathos, la stratégie de la femme blessée, la stratégie de la pleureuse.
La pleureuse, c'était surtout sur Marion Maréchal. Là, ça devient la colère, quand même.
Oui, mais enfin, quand même. Oui, c'est vrai, il y a les deux. Mais j'ai l'impression qu'elle veut réactiver le syndrome Chirac. Vous savez, Chirac, en 95, lâché par tout le monde, et finalement, l'homme seul qui allait voir les Français, et qui... La présidentielle, c'est une histoire, une histoire aussi personnelle. Moi, c'est d'ailleurs ce que je déplore. Parce que ça dépolitise beaucoup les choses. Et là... Marine Le Pen, d'ailleurs, dans les sondages, va plutôt pas mal par rapport à Éric Zemmour. Donc moi, j'ai l'impression que tout ça, je crois que ce sera d'ailleurs pareil, on pourra faire une analyse un peu similaire vis-à-vis de la primaire populaire. Tout ça, c'est déjà de la réflexion ou de l'action ou de la parole pour l'après-présidentiel. On a l'impression que tous ces gens-là ont l'impression d'avoir perdu, et ceux qui rejoignent Zemmour, Paris pour, sur l'après, et Marine Le Pen, elle, essaye d'avoir donc une stratégie plus du pathos qu'une stratégie de la politique. Je suis pas sûr que, en l'état actuel, ça fasse bouger une seule voix.
La référence à la taquilla, quand même, c'est particulier, non ? Qui veut s'y risquer sur ce sujet, Laurine Dupont ?
Oui, c'est particulier, c'est assez malvenu, mais je voulais juste ajouter quelque
chose. Utiliser ça pendant la guerre d'Algérie comme mot pour parler de la stratégie du FLN.
Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Thomas ?
Tout à fait. Moi, je trouve quand même que c'est un fait politique majeur de cette campagne. L'absence de soutien de Marion Maréchal à Marine Le Pen. Et je trouve que ça dit quelque chose de très intéressant sur la dynamique Zemmour. Parce que, oui, Zemmour perd des points dans les sondages, on le voit. Il formule horreur sur horreur. Néanmoins, il parvient à récolter plusieurs soutiens du RN et le presque soutien de Marion Maréchal. Je le dis avec des pincettes.
Qui représente pas grand chose, hein, qui représente que des gens qui votent déjà Zemmour. Gens qui aiment bien Marion Maréchal sont déjà parmi ceux qui aiment bien Zemmour. Et Marion Maréchal, mais... c'est personne, c'est une école vide et voilà.
Mais elle représente. Elle est pour faire tomber les digues en tout cas, ça.
Exactement.
C'est quelque chose qui est important.
Elle représente l'union des droites. Donc la recomposition pour 2027.
Ça aussi, je pense que c'est un fantasme total, puisque je pense que les droites, LR par exemple, a plus de différences politiques avec, pour l'instant, avec Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour qui se place dans l'ancienne droite anti-républicaine néo-pétainiste que maintenant avec une Marine Le Pen qui est en train de se modérer.
Sauf que Marine Le Pen n'a jamais voulu accueillir les LR. Là, quand on parle cette semaine avec des républicains, même haut placés dans l'entourage de Valérie Pécresse, eux vous disent c'est terrible parce que une partie d'entre nous va partir.
De nos électeurs.
Une partie de nos électeurs et une partie des cadres va fuir et va rejoindre Marion Maréchal.
Oui, ce qui la fera exploser plus que la réunir.
Je pense que Marine Le Pen est en train de vivre le contre-coup de sa stratégie de dédiabolisation. Ça fait des années qu'elle essaye de travailler à dédiaboliser son image, Le Pen père, à faire oublier cette époque de l'histoire du RN, à devenir polissée, prête à gouverner. Et que, en fait, c'est son drame. En fait, c'est l'apparition d'un candidat beaucoup plus attrayant pour l'extrême droite qu'elle. Et elle découvre un peu malgré elle qu'en fait, l'extrême droite est toujours d'extrême droite. Il y a des gens qui sont vachement plus séduits par la radicalité d'Éric Zemmour, que par son ton, beaucoup plus polissé, et elle est en train de les perdre, et c'est dramatique pour elle, parce qu'elle a mis un temps à le construire, cette crédibilité, en tout cas c'est le mot qu'elle essaye moi je pense qu'elle est toujours pas crédible, mais c'est ce qu'elle a essayé de faire croire à tout le monde, et surtout je pense que ce qui est difficile pour elle, ce sont ces jeunes cadres qui se barrent, c'est ça le plus dur pour elle. Marion Maréchal Le Pen et son école de formation, c'est quelqu'un qui veut travailler à l'union des droites par la formation d'une élite, ce que la gauche a toujours réussi à faire, former des élites, prêtes à gouverner, prêtes à travailler, prêtes à être des collaborateurs de cabinet, des fonctionnaires, des gens qui sont prêts à prendre le pouvoir et l'exercer. Et aujourd'hui, ils vont chez Zemmour. C'est terrible pour elle.
Vous parlez de la jeune garde, mais on a quand même le retour annoncé de Bruno Maigret.
Est-ce que ça lui nuit ? Thomas Legrand, je suis pas certain parce que là, elle feint la femme outragée. Mais si elle passe, alors évidemment, c'est plus difficile pour elle après de passer au second tour. Mais si elle passe au second tour,
ils reviendront tous.
Elle n'aura pas eu besoin de s'abîmer. Elle n'aura pas besoin de s'abîmer avec de l'extrémiste. Et donc, avec son nouveau ton doucereux, le barrage à Marine Le Pen sera plus difficile et la gauche, je pense que paradoxalement, c'est pas dramatique du tout pour Marine Le Pen.
Laureline Dupont, encore un mot sur est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont envie tout simplement de tourner la page de la famille Le Pen, parce que ça fait si longtemps que ça existe, quand on voit notamment Bruno Maigret qui ressort du bois, alors qu'il était précisément parti, parce que à l'époque il ne voulait plus de cette famille. Est-ce que ça, c'est un signe aussi ?
Tout à fait, et c'est tout le génie, pardon, et le paradoxe aussi de Marion Maréchal, c'est qu'elle a voulu solder son nom pour solder un héritage, mais ça ne signifie pas pour elle solder une radicalité, au contraire. C'est-à-dire que finalement, elle se lave de son nom de famille lourd à porter, de l'histoire de ce parti, difficile à endosser pour une jeune femme, mais on a l'impression que ça lui permet d'aller beaucoup plus loin finalement que sa tante, et en ça c'est très malin.
Et alors on a aussi Jean-Marie Le Pen qui paraît-il a proposé ses services pour tenter de rabibocher tout le monde. Là tout à l'heure il a déclaré qu'il soutenait sa fille et qu'il avait de la sympathie pour Éric Zemmour. Je ne sais pas si ça va permettre de recoller les morceaux, Laureline Dupont.
Je pense que c'est un réconfort pour Marine Le Pen, excusez-moi. Je pense que c'est un réconfort pour Marine Le Pen, elle qui était convaincue que son père allait finir par la lâcher. Elle l'avait dit d'ailleurs dans cette fameuse vidéo de France Inter que oh là, mon père, j'espère qu'il va pas me saouler. Là, il fait exactement l'inverse. Il rappelle son soutien à sa propre fille. Tant mieux pour elle. Je pense que c'est peut-être le seul truc de la semaine qui la rassure.
Il y a une belle saga familiale à écrire pour un scénariste. Oui.
Alors à propos de saga, c'est peut-être une page qui se tourne aujourd'hui. On va le voir. En tout cas, cette famille a pas toujours été à la une, à la droite et à l'extrême droite. Thomas Legrand, c'est précisément comme promis ce que vous allez nous dire maintenant dans vos bobineaux, car l'extrême droite existait avant Jean-Marie
Le
Pen.
Oui, c'est vrai, mais l'extrême droite au présidentiel avant Jean-Marie Le Pen, c'était pas grand-chose. Hein. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale avait disqualifié l'extrême droite, qui s'était largement fourvoyée dans la collaboration. Mais en 1965, c'est la première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Ve République. Et bien un vichiste qui fut pendant la guerre, enfin en 40 et 41, quand même responsable de la censure à la radio et au cinéma. Et ce vichiste se présente comme candidat anti-gaulliste. C'était 3 ans après l'indépendance de l'Algérie, une trahison pour toute une partie de la droite et de l'électorat pied-noir. Et c'est Jean-Louis Tixier-Vignancourt qui se présente et qui tient un discours assez dépolitisé. Hein. Ses antécédents ne plaidaient pas tellement pour lui, donc il fait attention. Et il se présente vraiment, il représente vraiment l'extrême droite qui a perdu toutes les batailles et qui en plus a tenté de tuer le général de Gaulle. Mais cet avocat à la voix de bronze tentait tout simplement de défier le général de Gaulle. Écoutez-le.
Si je pense être élu, messieurs d'Argent, si aux courses, c'était toujours le favori qui gagnait, mais personne ne jouerait au tiercé, il faut de temps en temps laisser sa chance à l'outsider, à au vainqueur imprévu. Je vais même vous dire, si dans l'histoire sainte, Goliath avait vaincu David, l'histoire sainte serait moins plaisante.
Voilà l'éloquence du prétoire, l'outsider. Alors il fera quand même un peu plus de 5% et il appellera à voter François Mitterrand contre De Gaulle, parce que c'était ça son obsession, contre De Gaulle au second tour. En 69, pas de candidat à l'extrême droite. Et en 74, Jean-Marie Le Pen se présente, il fait 0,75%. C'était un successeur de Tixier-Vignancourt, il aimait bien Tixier-Vignancourt. Mais là, il a un discours, lui, vraiment politique, très anti-immigré, dans le sillage donc de Tixier-Vignancourt, anti-républicain. Et puis, il y a cet homme, Jean Royer. Alors lui, c'était un notable gaulliste au départ, maire de Tours pendant des années, de 59 à 95. Et alors, il n'avait pas supporté 74, c'est 6 ans après 68, il n'a pas supporté du tout la révolution sexuelle et mai 68, il était très conservateur, il représentait l'ordre moral et il se présente donc contre Pompidou en 74 et il avait une certaine, vous allez entendre, une certaine idée de la femme.
Je voudrais aussi m'adresser aux épouses, aux mères de famille, aux jeunes filles, pour leur dire à quel point elles sont l'âme de nos familles, en raison de leur tendresse, de leur passion, en raison aussi de la délicatesse de leurs intuitions, qui les poussent à comprendre l'homme dont elles se sont fait les compagnes. Nos épouses, nos mères pourraient être encouragées à accomplir la totalité de leur rôle dans ce domaine. La famille, cellule de base du pays, étant le cadre absolument irremplaçable pour accueillir l'enfant.
Ah, j'aime beaucoup l'intelligence pour lui des femmes, c'est la délicatesse de leurs intuitions.
Pourquoi nous avez mis un extrait sur les femmes? Vous pensez à certains candidats d'aujourd'hui attitude?
Chacun fait l'écho
à l'égard des femmes, peut-être.
Je ne sais pas.
On est assez loin de MeToo, mais il y en a aujourd'hui qui sont encore assez loin de MeToo, Jean-Mathieu.
C'est un peu ça. Tixier-Vignancourt, vous le disiez en antenne tout à l'heure, Thomas Legrand, c'était la réaction face à la libération sexuelle. C'était le post 68 art.
Ça c'est Royer.
Autant pour moi. On retrouve effectivement une obsession sur la place des femmes dans la société. C'est cette obsession de la famille familiale qui a été réactivée au moment de la manif pour tous. C'est une obsession historique effectivement, et on retrouve bien entendu ça dans le langage et dans les écrits surtout d'Éric Zemmour, même s'il essaye malheureusement parfois de s'en départir. C'est bien un fond culturel de l'extrême droite.
Voilà, et c'est toujours en tout cas un sujet d'actualité sur lequel les candidats vont devoir se positionner.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Une émission qui vous rafraîchit la mémoire, on vient de le voir. Une émission qui vous permet également de refaire le point sur la semaine écoulée, au cas où quelque chose vous aurait échappé. Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire Savageant.
Et cela grâce à votre semaine politique.
Le vent souffle sur la présidentielle française et cette semaine, il nous a fait entendre une voix inattendue. Bah, pour l'instant, je suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, bah, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle.
Oui, oui, c'est bien la voix de François Hollande. L'ancien président était de sortie la semaine dernière. Une discussion avec des lycéens. Pour l'instant, je ne suis pas candidat, mais comme ça ne va pas bien, trois petits points. Et c'est comme ça que François Hollande a malicieusement fait irruption dans la bataille des candidats de gauche. Une garnison qu'on peut déjà qualifier d'armée mexicaine. François Hollande devrait préciser sa pensée dans les tout prochains jours, sans doute même cette semaine. Alors, qu'en pense Anne Hidalgo ?
D'abord, François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ses élèves de seconde.
Le vent de la campagne a porté la voix d'un candidat iconoclaste cette semaine, celle de Fabien Roussel, qui a présenté son programme. Et pourquoi iconoclaste? Eh bien, parce que le candidat communiste à l'élection présidentielle veut faire du président de la République une sorte d'objet de décoration.
Je voudrais qu'il y ait moins de présidentielles et plus d'élections pour élire des représentants du peuple, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans beaucoup de démocraties modernes comme en Allemagne. Et donc, donnons le pouvoir au Parlement qui, en fonction de la majorité qui se dessine, eh bien désigne un président de la République qui sera celui qui ira faire les inaugurations à l'extérieur.
Voilà, un rôle d'inauguration. Et il n'est pas le seul à vouloir changer le fonctionnement de nos institutions. Christiane Taubira a dit que si elle est élue, elle réhabilitera la démocratie. D'ailleurs, l'ancienne garde des Sceaux était en meeting vendredi soir à Bordeaux. Et si on a l'impression de beaucoup voir Christiane Taubira, ces meetings sont en fait très rares. Les derniers remontent à 20 ans quand elle s'était lancée à l'époque dans la présidentielle de 2002. Vendredi, ils étaient 700 à venir l'écouter. Beaucoup de jeunes d'ailleurs dans l'assistance. Si elle a beaucoup critiqué le mandat d'Emmanuel Macron, Christiane Taubira a aussi fait des envolées à la Christiane Taubira.
Tous ces déplacements me donnent une vigueur, une énergie que vous ne pouvez imaginer. Je viens jusqu'à vous, je vous rencontre, je passe des heures avec vous, je vous picore, je butine, je vous aspire, je vous respire.
Le vent a soufflé comme un air de déjà-vu cette semaine. À l'extrême droite, il y en a un sur qui les condamnations judiciaires glissent comme l'eau sur les plumes d'un canard. Éric Zemmour, déjà condamné en 2010 pour provocation à la haine raciale, pour avoir dit que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, a remis le couvert cette semaine.
C'est la mère de toutes les batailles. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive. C'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration...
Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance.
Ah, ben il y aura quasiment plus, oui. Ah ça j'en suis sûr.
C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce
pays ? Oui, en tout cas des immigrés ou des enfants d'immigrés.
Éric Zemmour qui est au milieu d'un déchirement familial. Vendredi dans Le Parisien, Marion Maréchal a dit plusieurs choses. Que la politique la titille depuis un an, que si elle rejoint Éric, c'est elle qui l'appelle par son prénom, ce n'est pas juste pour dire coucou, et que de toute façon, elle ne soutiendra pas sa tante.
Bah écoutez, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
Et pour finir cette semaine politique, Cyril, comme il y a 5 ans, Emmanuel Macron profite de la campagne présidentielle pour parler de l'Algérie.
La première fois, c'était en février 2017 à Alger. Le candidat, Macron, qualifiait la colonisation de crime contre l'humanité. 5 ans plus tard, à l'Élysée cette fois, le chef de l'État, déjà en campagne, recevait les représentants de la communauté pied-noir. Il a évoqué devant eux la fusillade de la rue d'Isly à Alger en mars 62. Une fusillade qui avait fait 70 morts et plus de 200 blessés.
60 ans après... La France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair, ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Ce jour-là, les soldats français ont tiré sur des Français. Il est plus que temps de le dire. Ce qui devait être une opération de maintien de l'ordre s'acheva par un massacre.
Je vous cite Medine Zawish, connu de son simple prénom Medine. Les vieux ennemis nourrissent une rancœur pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrhume, c'est que la France a éternué. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif, qui se battirent pour sa patrie et qui pour ses actifs, du pied noir au maquisard, on est tous sans mal d'histoire.
Merci beaucoup pour cette semaine politique, Cyril Lacarrière. C'était riche, hein. On va essayer de revenir au fur et à mesure sur tout ce qu'on a entendu, mais peut-être, allez, vous avez tous réagi quand on a entendu Christiane Taubira, Rachid Lahirèche. Allez, un petit mot sur ces envolées lyriques. Ça plaît à une certaine jeunesse, en tout cas.
s'appelait...
Vous n'êtes pas convaincu?
Dubitatif.
Je sais pas, ça, on verra, c'est l'heure de vérité. Mais c'est un peu son problème, je trouve. Est-ce qu'elle est une politique, une voix forte de la gauche? Est-ce que, donc, pour l'instant, elle est en campagne et je trouve qu'on cherche sa place. Et moi, je la vois encore pour l'instant comme une figure de la gauche. Pas comme une fille, une femme capable d'être candidate. Donc du coup, quand elle est dans ce lyrisme, elle est un peu pour moi en stand-up, quoi.
Ah ben on verra bien tout à l'heure ce que ça va donner. Du coup, t'es de la primaire populaire, hein, ce qui ne veut pas préjuger du reste. Jean Massier.
Vous parliez des jeunes et c'est important parce qu'il y a toute une génération de jeunes de gauche qui est née au moment où tout de suite après la cohabitation de Lionel Jospin, qui donc n'a pas vraiment de référence de leur vécu, de grands moments d'histoire de la gauche, de la CMU, des 35 heures, du PACS. Ils n'ont que le quinquennat de Hollande avec lequel ils ont une relation très tendue. À une exception. C'est le mariage pour tous, parce que ça, quand même, c'était un grand moment de la gauche. Et il y a plein de jeunes.
Mais ça, c'est venu après.
Qui gardent dans Saint-Aubira cette espèce de seul souvenir qu'on a. C'est le seul truc qu'on a, c'est Christiane. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes de gauche qui l'aiment beaucoup.
Thomas Legrand.
Il y a une idée qui est répandue maintenant, que la gauche ne gagnera pas cette fois-ci. Mais qu'on ne peut pas laisser, se dit la gauche, on ne peut pas laisser quand même le débat uniquement identitaire avec ses voix d'extrême droite et il faut quelqu'un pour répondre, pour un récit, etc. Rien que pour ça, je pense que Christiane Taubira a une petite aura, mais effectivement, vous avez raison, ça on ne fait pas une candidate, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'équipe, elle ne voulait pas il y a deux mois, donc moi je pense que ça ne marchera pas, mais bon, en tout cas, il y a une voix.
En tout cas, vous disiez, on ne peut pas laisser le débat uniquement sur le terrain identitaire, c'est sûr que cette semaine, par exemple, a été marquée par le grand retour de la question sociale, hein, ça obliger les candidats à se positionner sur ce point. Le pouvoir d'achat, préoccupation numéro un des Français d'après la dernière enquête Ipsos sur le sujet. Yannick Jadot ne s'y est pas trompé, il a présenté son programme hier à Lyon pour une République écologique et sociale.
Je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre. Oui, c'est l'écologie qui apporte aujourd'hui les réponses nouvelles pour le pouvoir d'achat. Oui, c'est l'écologie qui peut apporter l'équivalent d'un 13e mois en s'attaquant résolument à la réduction des dépenses contraintes.
Le climat et le pouvoir d'achat, ça va ensemble, Jean-Massier?
Ben, ça va d'autant plus ensemble qu'il y a un traumatisme dans toute la classe politique et le mouvement des Gilets jaunes. L'augmentation des prix du carburant qu'on constate en ce moment fait flipper tout le monde. La crainte d'un retour de mouvement social, et particulièrement les Verts, puisqu'on se souvient de la taxe carbone, qui était une idée quand même écolo dans l'âme, qui a provoqué, qui a été l'étincelle, qui a déclencher ce mouvement des Gilets jaunes. Donc là, Yannick Jadot, il a besoin d'essayer de convaincre tout un électorat, de dire « Vous inquiétez pas, je ne suis pas le candidat de l'augmentation du prix du carburant, au contraire, je suis le candidat qui a du plus d'argent à la fin du mois. » Et c'est ça qu'on a entendu effectivement dans cette présentation de campagne et dans cet extrait.
Alors on a aussi entendu Fabien Roussel, présenté comme candidat iconoclaste. Rachid Ayrech, qu'est-ce que vous en dites de ça?
Je ne sais pas si c'est le bon mot, iconoclaste. Moi je dirais il a un côté un peu troll.
Troll?
Ouais, troll.
Ah, expliquez-nous.
Fabien Roussel est peu connu des Français, on le découvre. Enfin, nous, non, journalistes, mais les Français le découvrent. Et il a compris que pour se faire connaître, il fallait faire du buzz, faire parler, faire des phrases qui soient reprises partout dans les médias.
Des contre-pieds.
Contre-pieds, et surtout se démarquer de Mélenchon, des écolos et de la gauche en général. Donc, il joue le troll pour se faire entendre, et ça marche.
Il a surtout compris
qu'il fallait réhabiliter une valeur perdue de la gauche, qui est la valeur travail, et c'est pas seulement pour jouer le troll. Il réhabilite ce qui est quand même le trésor perdu de la gauche depuis des années, c'est-à-dire le travail qui libère et qui n'est pas une aliénation, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, le travail qui est capable de rendre à l'individu sa dignité. C'est tout ce discours que la gauche a complètement, non seulement mis de côté, mais même retourné ces dernières années. C'est ça, pour moi, la nouveauté de Fabien Roussel aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord sur le travail que Fabien Roussel est un homme de gauche, il a un programme de gauche, il n'y a aucun débat. Quand je dis troll, c'est que quand on l'entend, c'est pour parler de sapin de Noël, du Tour de France, et de viande et de vin. Et les médias l'invitent que pour ça.
Il y a quand même 180 propositions pour la France, des jours heureux, référence au Conseil national de la résistance.
Il a un programme de gauche,
qui a été présenté cette semaine.
Il a un vrai programme de gauche, ça c'est pas du tout un débat. Mais pour se faire entendre, il choisit la polémique. Il surfe sur les polémiques. Là, sa phrase sur le vin est une phrase anodine, pas préparée. Ça crée une polémique. Et lui, il la récupère, il en profite pour surfer dessus pendant des jours et des semaines. Donc, sa manière à lui de se faire entendre existe dans le débat.
Il y a un reproche qui est fait souvent à la gauche depuis quelques années, c'est d'être éloigné du peuple et éloigné des vraies préoccupations, ne s'intéresser qu'au sociétal, donc à ce qui intéresse les citadins, mais pas l'ensemble des Français. Et lui, il essaye de se placer sur l'autre versant, justement. Il y a toujours dans les élections présidentielles, parce que ça représente aussi une partie de l'âme de la gauche, quelqu'un qui doit représenter la gauche un peu républicaine, la gauche un peu industrialiste, la gauche un peu nucléariste. Tout ça, ça existe, c'est vrai, c'était échevènement avant. Le PC le fait. Le PC n'a pas toujours été très républicain. Hein. Je rappelle qu'en 2004, le PS avait voté avec le RPR pour l'interdiction du voile à l'école, pas le PC. Bon, aujourd'hui, c'est le PC qui est dans l'autre versant, mais avec Fabien Roussel, tout le panel de la gauche et des valeurs de la gauche avec leur diversité, et peut-être que celle-là a été un petit peu abandonnée, est représentée, d'où son petit succès. Il est à 3, ce qui, à l'aune de la gauche aujourd'hui, est pas si mal.
Alors, on va parler tout à l'heure d'Emmanuel Macron et de cette phrase de François Hollande qui méritera peut-être un petit commentaire, mais on va passer au like citoyen avec Jean Massier, qui est donc, je vous le rappelle, chroniqueur politique sur Twitch, qui surveille la campagne sur le web. Quand on parle de YouTube, Jean, au sujet de la présidentielle, on parle souvent de ce que font les candidats sur YouTube, mais rarement de ce que font les YouTubeurs sur la présidentielle.
Et oui, c'est justement de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, puisque lundi dernier, une YouTubeuse de 40 ans du nom de Magali Berda a diffusé un reportage sur sa chaîne 24 heures en immersion dans la campagne d'un candidat à la présidentielle.
Bonjour à tous, donc comme je vous l'avais annoncé, je vais suivre en immersion tous les candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, je vais suivre le polémiste Éric Zemmour. Donc je sais que cette vidéo va certainement faire très très polémique parce que je pense que personne ne s'y attend, même moi je ne m'y attends pas, mais je suis là. Allez, suivez-moi.
Et voilà, c'est parti pour 35 minutes de vidéo dans un style très télé où on voit la vidéastre suivre un déplacement de campagne du candidat d'extrême droite dans un petit village du Nord. Et elle discute avec des membres de son équipe, avec certains de ses soutiens, et elle pose même quelques questions au candidat Éric Zemmour dans une interview de quelques minutes. À l'heure où je vous parle, cette vidéo compte 385 000 vues, un très bon score pour une chaîne qui n'a été créée qu'il y a 2 semaines et qui ne compte que 15 000 abonnés, c'est très peu. Alors du coup, comment une si petite chaîne YouTube créée par quelqu'un qui revendique ni rien comprendre à la politique d'ailleurs, a-t-elle pu avoir accès à un candidat de premier plan et réaliser une telle audience? Eh bien tout simplement parce que Magali Berda, ce n'est pas n'importe qui. Loin de la youtubeuse débutante, il s'agit d'une entrepreneuse très très bien implantée dans le monde de l'influence et elle compte près d'un million de followers sur Instagram. C'est une véritable agente de star de la télé-réalité, habituée des plateaux télé et des pages des magazines People. Et c'est là toute l'influence de cette Magali Berda, un très solide réseau qui lui ouvre des portes et lui apporte des relais puissants. Voilà comment une vidéo de 35 minutes sur Éric Zemmour s'est retrouvée partagée massivement par tout un tas, toute une ribambelle de stars des réseaux sociaux sur des stories Instagram. Des stars d'habitude plus habituées à parler de mode, de maquillage et de commérage. Et elle n'en est pas d'ailleurs à son coup d'essai, Magali Berda. Il y a 2 mois, elle avait organisé une entrevue entre des influenceuses et Marlène Schiappa, une opération déjà très critiquée pour son mélange des genres. Mais sur le fond, que dire? Moi je suis un peu embêté parce que je pourrais dénoncer la candeur et la naïveté de Magali Berda, de sa démarche qui papote avec Éric Zemmour comme elle le ferait avec le dernier gagnant de Koh-Lanta. Mais en réalité, elle qui assume ouvertement, encore une fois, ne rien comprendre à la politique, elle a quand même une démarche assez sincère. Elle dit vouloir s'y intéresser et faire l'effort d'essayer de convaincre d'autres personnes de s'intéresser à la présidentielle. Il y a aussi de l'authenticité, par exemple, lorsqu'elle pose des questions, des bonnes questions à Éric Zemmour. Écoutez.
On dit souvent que vous êtes raciste. Des gens disent ça. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration nous suivent, nous influenceurs, et beaucoup d'influenceurs aussi sont issus de l'immigration. Moi-même, je suis issue de l'immigration. Vous avez envie de leur dire quoi?
J'ai envie de leur dire que je leur fais, moi, qu'ils ont l'impression que je ne les aime pas, ce qui est faux, je leur fais le plus beau cadeau. C'est moi qui leur propose le plus beau cadeau.
Voilà, c'est une assez bonne question que pose Magali Berda, à laquelle le candidat bricole une réponse assez attendue, sans trop être interrompu ni relancé par l'intervieweuse débutante.
Alors Jean, au final, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça?
Vous savez, je suis moi-même un vidéaste, un youtubeur, un streamer, comme on dit. J'ai toujours défendu l'idée que la politique et les politiques ne doivent pas être réservées aux journalistes. Tout le monde doit parler de politique, doit pouvoir parler de politique et doit pouvoir parler aux politiques. Mais là, franchement, quand même, on atteint un peu les limites de la désintermédiation. On peut pas interviewer une personnalité politique comme on testerait un jeu vidéo, une nouvelle voiture ou une boîte de maquillage. Ça peut prendre le même format sur YouTube, mais c'est pas les mêmes enjeux. Donc oui, vive YouTube et sa spontanéité et sa sincérité, mais vive aussi la démarche journalistique et son exigence, parce que c'est elle qui est garante de la plus-value pour les auditeurs et les personnes qui regardent.
Et qui sera le prochain candidat à aller voir Magali Berda ?
Eh bien, elle a annoncé que ce serait Jean-Luc Mélenchon.
Donc ça va continuer.
Absolument.
J'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus, Laureline Dupont, allez-y.
Non, je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit. La désintermédiation totale est quand même un peu gênante dans le sens où c'est toujours un peu cet écrasement des hiérarchies, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on considère que tout le monde peut être journaliste, que notre métier soit remis en question, que notre façon de l'exercer le soit. C'est formidable. Je pense que c'est absolument nécessaire qu'on ne fait pas assez notre autocritique. Mais c'est quand même un métier. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire, mais on a fait des études pour ça. On a appris à faire des interviews, à relancer,
à vérifier les informations. Avoir une relation
exactement.
Avec les faits qui n'est pas tout à fait la même.
Tout à fait. Donc, C'est ça me chiffonne un petit peu.
Rachel et RH là-dessus.
Déjà, moi, je trouve pas que ce soit une bonne question. On m'a dit que vous êtes raciste.
Ah,
et lui,
la question posée à Éric Zemmour.
Moi, c'est normal qu'ils disent non. Ils n'allaient pas dire oui, je suis raciste. Donc,
elle le met face à son racisme.
Oui, mais quand voilà, on arrive et qu'on dit, en rigolant, on m'a dit que, et j'ai des copains qui me disent que, et des Arabes et des Noirs m'ont dit que, et lui, c'est Zemmour, il va dire, dites-leur que non. Donc, même la question est posée d'un ton assez. On se marre, quoi. On m'a dit que moi me dérange.
Alors pour sortir juste de la question des influenceurs et des influenceuses surtout, parce que je crois qu'il y a pas mal de
femmes dans cet entourage de Magali Berda, beaucoup de femmes.
Effectivement. Oui. Question, puisque on parlait d'Éric Zemmour, sur Jean-Luc Mélenchon qui est allé débattre avec lui une nouvelle fois chez Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous en dites là, Thomas Legrand ?
Vous avez dit que Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon étaient les deux premiers, et pour l'instant peut-être les deux seuls, je sais pas si les autres vont accepter. C'est toujours Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui vont dans les endroits où tester, là où il y a le moins de journalistes, où il y a le plus de naïfs. Et Internet, c'est pas Internet qu'il faut accuser. Regardez, avec Internet, nous avons Jean Massier qui a une culture politique.
Non, mais lui, c'est
on
pas
peut
pareil.
Vérifier. Bah, oui, alors, vous dites que vous êtes un YouTuber et que vous n'êtes pas journaliste, etc. Vous avez la culture politique qu'il faut. Je pense que vous avez une démarche journalistique et une démarche vis-à-vis, en tout cas, des faits qui est beaucoup plus journalistique qu'influenceur. Donc la question n'est pas là. Moi, ce qui me gêne, c'est l'inculture crasse et le fait que des gens très cultivés comme Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour roulent dans la farine les incultes, que ça soit Hanouna ou que ça soit cette jeune femme dont
je trouve ça dur de parler d'inculture face à une démarche de quelqu'un qui cherche à s'y intéresser.
Oui,
moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui dit j'ai envie de m'y intéresser à cette
présidentielle. On va dire que je suis je fais partie de l'élite ou que je suis du système, mais il faut quand même, avant d'interroger devant des millions de personnes, que si on prétend interroger devant des connaître un minimum de dossiers, un minimum d'histoire, et simplement pour pas se faire rouler dans la farine. Et ces gens-là, les hommes politiques qui acceptent, veulent et préfèrent avoir des interlocuteurs comme ça, plutôt que comme vous, par exemple, ou comme des gens un peu plus cultivés. Voilà,
en tout cas, Jean Massier le rappelait, Magali Berda, elle est allée voir Marlène Schiappa, donc du côté du gouvernement.
Je mets Marlène Schiappa dans le même seau, parce que souvent, elle préfère aussi
Je vous laisse la responsabilité de tout ce que vous dites, Thomas.
Ben oui.
Voilà. On revient un instant sur la semaine politique. On entendait tout à l'heure François Hollande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Laureline Dupont? Il y aura le début d'un commencement de réflexion ou c'est juste une blague et de l'humour, comme le dit Anne Hidalgo?
Alors, je pense qu'il en a évidemment envie. Enfin, ça, à mon avis, ça fait même pas débat. Enfin, mais d'ailleurs, comme Sarkozy avant lui, comme tous ces derniers présidents qui finalement ont eu le malheur quelque part de quitter le pouvoir encore assez jeunes, et qui ont envie de prolonger leur temps. Maintenant, si on fait un tout petit peu de psychologie de comptoir, mais ça dit aussi que finalement, il ne digère toujours pas de s'être défilé la dernière fois et que cette défection, il essaye de la réparer comme il peut et avec des tentatives. Plus ou moins.
Il est seul ou il y a du monde autour de lui ?
À ma connaissance, il est seul, mais.
Rachel Daïrach. Ouais.
Il est assez seul. Moi, ce qui me dérange, qu'il y pense, il a le droit d'y penser, c'est que François Hollande, quand on lui parle et qu'on le croise, on lui parle de Anne Hidalgo, il trouve mauvaise. On lui parle de Taubira, pareil. On lui parle d'Olivier Faure, le chef du PS, c'est pareil. En fait, tout le monde est nul, quoi. Et lui, qui était au pouvoir et qui avait tous les pouvoirs, et qui avait une gauche très forte, qui avait tous les pouvoirs, on dirait qu'il oublie ça, que lui il est innocent, qu'il est loin de tout ça, et qu'il dit « Oh les nuls, vous êtes là ?» Et lui, jamais sur moi en question, et jamais se pose la question lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la gauche est comme ça? Et je pense que quand il revient, genre, peut-être que je vais revenir, peut-être que je suis le sauveur. Et l'autre question, c'est qui l'attend?
Surtout qu'il y a déjà du monde sur la ligne de départ.
Et donc, je trouve ça un peu...
Et puis, il y a beaucoup de sauveurs potentiels.
Voilà, hein. Je trouve ça un peu... C'est un peu... Non, ça nous fait marrer, on rigole. Mais je trouve ça un peu limite, quoi.
Pour répondre à votre question, François Hollande conserve de bons réseaux. Il consulte, il reçoit chez lui beaucoup de gens. Alors, bon, c'est les réseaux PS à l'ancienne. Hein. On est sur des élus locaux, des collaborateurs, des hauts fonctionnaires. C'est pas très populaire, mais il garde quand même des réseaux assez puissants, y compris en interne au Parti Socialiste. Et c'est certain que François Hollande a un drame qui lui fait saigner le cœur. C'est qu'il n'a pas pu présenter sa candidature à sa propre succession et qu'il l'a dit, il le regrette. Et il aimerait bien rattraper cette tâche dans sa vie de dire j'aurais dû pouvoir défendre ce que j'ai fait de bien parce que voilà, aujourd'hui je suis maltraité, j'en ai marre.
Quand on parle de réseau, le PS, Olivier Faure a gagné le congrès, je crois qu'il y a eu 11 000 votants, c'est très peu, et Olivier Faure et François Hollande a fait jouer ses réseaux pour qu'Olivier Faure perde le congrès.
Et il a pas
et
réussi.
Il a gagné à 70%. Donc les réseaux de François Hollande, franchement, au sein du PS, sont assez limités. Franchement, c'est assez limité.
Surtout depuis l'élimination de Stéphane Le Foll.
France Inter, un dimanche de campagne, Claire Servagen.
On en vient à la grande affaire de la soirée, l'épilogue de la primaire populaire. La démarche, vous le savez, est inédite. C'est un collectif de citoyens désespérés de voir la gauche éliminée dès le premier tour qui a lancé l'idée de cette consultation d'un nouveau genre. Elle réunit 7 personnes, 2 quasi-inconnus, un eurodéputé, une candidate arrivée sur le tard, Christiane Taubira, et 3 candidats qui ne veulent pas en entendre parler. 467 000 personnes se sont inscrites pour les départager, selon un processus bien particulier, on y reviendra. Les opérations de vote ont débuté jeudi, elles se sont achevées à 17h, on devrait donc bientôt être fixés. Les organisateurs s'apprêtent à donner les résultats. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour France Inter, alors qu'est-ce qu'on vous a dit pour l'instant Antoine?
Pour l'instant, on nous a surtout dit d'attendre, puisque ce sont les responsables de la plateforme NeoVote, le prestataire embauché par la primaire populaire, qui doivent accéder aux résultats avant de les communiquer à la haute autorité de contrôle, qui elle-même va communiquer autour de 19h. Le résultat final, on l'aura donc d'ici quelques dizaines de minutes. Et puis, en attendant, tous les militants de la primaire populaire... Absolument. Tous les militants, d'ailleurs, de la primaire populaire se regroupent autour du Tramendo, dans le parc de la Villette, dans le nord de Paris. C'est là qu'ils se sont donné rendez-vous. Des gens venus d'un peu partout, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, la mobilisation a grandi un peu partout en France. On a 5000 militants au total. Et un petit échantillon ici de gens qui se demandent un peu ce que cette primaire va pouvoir changer.
Donc tout est prêt en fait pour les 20h de la télé, enfin pour peut-être le 19h d'Inter, mais surtout pour la télé ce soir, Antoine.
Absolument, et pour les matinales de demain matin, puisque la soirée est censée réunir une partie des candidats. Christiane Taubira a déjà dit qu'elle viendrait faire un tour ici, quelle que soit l'issue du résultat, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas. Anne Hidalgo et Yannick Jadot auraient fait savoir qu'en cas de victoire, ils seraient prêts à venir faire un tour et rencontrer les militants. Pour les autres, fin de non-recevoir du côté de Jean-Luc Mélenchon, et pas vraiment de nouvelles pour les autres candidats. Vous l'avez compris, ça reste encore un peu nébuleux. À l'heure où je vous parle.
Vous nous rappelez, promis, Antoine, si jamais ça, vous devriez...
Dès qu'on a des informations.
Dès que vous voyez la lumière blanche avant 19h, vous nous rappelez. Hein, ce sera Absolument. Breaking news pour vous, promis juré. Rachid Lahrech, vous voyez réagir. Là.
Déjà, Jadot sera au 20h TF1 ce soir. Donc c'est une première info. Donc il pourra commenter en direct le score. Donc je ne pense pas qu'il ira au Trabendo.
Et alors pour les gens qui ne sont pas parisiens, Thomas Legrand, dites-nous en deux mots ce que c'est le Trabendo.
Le Trabendo, c'est où? C'est dans le...
C'est à l'Eau de Paris. Voilà. Diamétralement opposé.
Jean Massier.
La Villette,
19e arrondissement.
Voilà. 19e arrondissement d'un côté et la tour TF1, c'est du côté de Boulogne, donc on est au sud-ouest de Paris. Donc c'est littéralement, oui,
c'est le
45 minutes de voiture minimum.
C'est les quartiers de gauche, hein, on va dire ça.
Mais peut-être que Jadot, depuis des semaines, qui répète, moi la primaire, c'est pas mon histoire et je suis ailleurs. Le soir du score, il est au téléphone 20h pour tout de suite occuper le terrain. Et je pense que peu importe le score, c'est pour réaffirmer ce qu'il défend et dire qu'il est encore là, quoi. Tout de suite.
Un petit mot de la participation, puisque pour l'instant, c'est ce qu'on a. 392 000 votants, a priori, 84% de ceux qui s'étaient inscrits. Laureline Dupont, qu'est-ce qu'on peut dire C'est déjà beaucoup, c'est pas mal de monde, quoi.
Oui, c'est beaucoup. Ça rend l'issue du vote quand même assez incertain. Plus largement, le processus de cette primaire populaire pose, je trouve, une vraie question une vraie question démocratique. On a quand même une primaire populaire qui avait pour ambition de renouveler la vie démocratique. Donc dans primaire populaire, il y a populaire, donc d'y associer le peuple de la façon la plus large possible. Et en même temps, le principe de cette primaire, c'est de soumettre au vote des électeurs des noms de gens qui refusent de s'y soumettre. Moi, je trouve ça un petit peu délirant. Mais
alors, il y a ceux qui refusent de s'y soumettre. Et puis, il y a Christiane Taubira qui, elle, y est allée la fleur au fusil. Mais on n'avait pas toujours très bien compris ce qu'elle allait faire en fonction du résultat. Vendredi soir, sur BFM, elle attendait de clarifier sa position.
La nécessité de cette campagne appelle qu'on se batte. Donc, j'ai dit que j'allais en reconnaître le verdict. Je vais le faire. Donc, je vais rejoindre la personne qui aura été désignée. Et puis, ça dépendra d'elle, évidemment, d'accepter ou non ma présence à ses côtés.
Alors, est-ce que c'est clair cette fois-ci? Qui veut s'y coller, Thomas Legrand? Comprenez quelque chose?
Pas grand-chose, parce que je... En fait, moi, ce qui me dérange le plus, il y a le côté, effectivement, on peut voter pour des gens qui ne sont pas candidats, mais il y a surtout voter pour des gens qui n'ont pas signé la plateforme. Parce qu'il y a une plateforme un peu programmatique qui est un peu floue. Et cette plateforme, elle est tellement floue, c'est-à-dire que... Des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Yannick Jadot ne peuvent pas gouverner ensemble aujourd'hui. Pour une raison simple, il n'y a pas de synthèse possible sur une question essentielle qui est leur vision de ce qu'est la démocratie. Alors, il s'agit de la question de politique étrangère. Alors, ça fait pas beaucoup de débats dans une campagne, mais c'est quand même... Enfin, je ne vois pas comment quelqu'un qui a cette relation avec ou cette vision de Vladimir Poutine ou du drame des Ouïghours peut gouverner avec Yannick Jadot ou même avec Anne Hidalgo. Donc il y a cette grosse différence. Ça tient essentiellement d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon, beaucoup plus qu'aux Insoumis, qui sans Jean-Luc Mélenchon, je pense, aurait une autre attitude. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a un problème avec l'impérialisme. Il n'arrive pas à être contre deux impérialismes à la fois. Il préfère être contre l'impérialisme américain. Il n'arrive pas à être contre l'impérialisme russe à la fois. C'est très étonnant. Et ça bloque pour l'instant la gauche. Donc,
on ne peut pas... la seule chose qui bloque.
Non, mais on peut pas avoir le choix comme ça entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Deux personnes qui sont assez différentes et qui doivent gagner l'un face à l'autre.
Est-ce qu'il y a des sujets de divergence à gauche, bien entendu? Est-ce qu'ils sont indépassables? Je ne sais pas. En tout cas, j'en suis pas persuadé. Mais après 2022 va s'ouvrir une période importante pour la gauche, avec notamment le départ de Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé déjà que c'était sa dernière campagne.
C'est une histoire pour après. En fait.
Il va s'organiser quelque chose dans l'après. Et ce que nous dit la primaire populaire et ce que nous disent là, ces centaines de milliers de gens qui ont participé à ce vote, c'est qu'on ne veut pas que ce soit géré par des états-majors de partis. Une nouvelle manière de faire de la politique est demandée par des gens de gauche. Des citoyens. La primaire populaire, ça a été inventé par des gens qui sont issus à la fois des Gilets jaunes et du mouvement climat, des jeunes qui veulent la désintermédiation, qui veulent que les gens, que démocratiquement, on se passe des vieux appareils à la papa et qu'on fasse de la politique différemment.
Rachid Laïrache, est-ce que le résultat de cette primaire, quoi qu'en pensent ceux qui participent volontairement ou à l'insu de leur plein gré, est-ce qu'elle aura une conséquence sur la suite de la campagne à gauche de toute façon?
Ça, personne ne le sait. Personne. Ni vous, ni moi, ni Taubira, ni... Ça, on le verra dans les jours qui arrivent.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut, ceux qui sont engagés peuvent faire comme si ça n'existait pas? Voilà, c'est je peux vous poser la question de cette façon-là.
Oui, c'est possible. Ils peuvent le faire. Ensuite, si dès demain, ce soir, imaginons, Jadot gagne ou Taubira gagne, et que le lendemain, il y a une dynamique qui s'enclenche, et ben là, il y a un truc qui se passe. Mais si rien ne se passe, rien ne se passe. Et ça, on ne saura pas. Donc, c'est pas. Et je pense que Taubira le dit, hein. Elle-même, quand on lui parle, elle dit, bon, on verra ce qui se passe.
Peut-être que ce soir, on ne peut pas savoir quelle sera l'influence sur le rapport de force. On connaît aujourd'hui le rapport de force à gauche, c'est assez simple. Jean-Luc Mélenchon est largement en tête, et les autres suivent derrière, autour de 6, entre 3 et 6. Est-ce que cette primaire aura une influence sur le rapport de force? Personne ne peut le dire, vous avez raison. Ouais.
Et l'autre chose, c'est que moi, je me méfie toujours du « après ». En politique, on dit « on verra après », on ne sait pas ce qu'il y a après, en fait. Donc, si on repousse...
C'est maintenant, par contre.
Non, voilà. Donc, non, mais si on repousse toujours à... C'est pareil pour le RN, hein. Ils construisent l'après. Bah, tout dépend d'aujourd'hui, ce qui se passe, quoi. Si la gauche fait 5% et qu'ils ont zéro député, bah l'après, par quoi on commence, quoi. Mm-hmm. Donc, faut toujours, avant de penser à l'après,
oui,
je pense.
Bien sûr.
Ouais, il faut, ouais, d'abord, c'est maintenant, c'est urgent, quoi.
En tout cas, je vous cite juste ce sondage de Doxa pour le Figaro. 56% des Français et 76% des sympathisants de gauche pensent que ce scrutin, cette consultation est une bonne idée. Lorraine Dupont. Donc. Ça laisse pas.
Pas l'Aurélien.
Bon, enfin, vous n'avez pas tellement envie de.
C'est vrai que c'est un appel. C'est ce que disait Jean, c'est vrai. C'est un appel. C'est un appel. Il faut faire autrement. Alors après, se passer des appareils, moi, j'en doute un peu. Il faudra d'autres appareils parce qu'il faut représenter les gens.
C'est surtout remplacer la politique par de l'activisme. Et c'est aussi ne plus. Admettre, accepter, prôner le fait qu'on n'a plus besoin d'avoir une vision de société, une vision pour la France, enfin pardon d'être grandiloquente, mais en revanche, assumer le fait qu'on vise des catégories. Donc il y a la génération climat, donc on va faire... c'est exactement ce que fait Jadot dans sa campagne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de récit, il n'a pas de vision pour le pays, mais en revanche, il fait des propositions catégorielles. Je trouve que ça pose quand même question pour une élection présidentielle.
Alors je vous propose qu'on attende le résultat de cette consultation, de cette primaire populaire, ça ne devrait pas tarder, et qu'on dise quand même un tout petit mot d'Emmanuel Macron pour terminer. Il ne s'est pas encore déclaré. Il a dit qu'il se prononcera en temps voulu, ce qui est quand même assez vague. Mais La République En Marche prépare la campagne cette semaine. Lorraine Dupont, le site de campagne a été lancé. Ça s'appelle Avec vous.
Ouais. Ça fait avec vous.
Qu'est-ce que ça veut dire avec vous ?
C'est l'idée de se placer du côté du citoyen, de l'individu. Là, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron me disait la semaine dernière qu'ils étaient atterrés. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas le bon terme, qu'ils observaient que la société de l'individu avait remplacé la société de citoyen. Et donc, on voit bien qu'ils ont.
C'est gonflé.
Ouais. Ils partent de ce postulat pour créer leur campagne. Et donc, quand ils lancent leur site avec vous, sur lequel on peut voir donc des profils, enfin des. Oui, des citoyens, des individus, expliquer leur travail, etc. C'est vraiment ça qui est derrière l'idée de ce site.
En tout cas, Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré. Bon, c'est un grand classique, Thomas Legrand, vous allez le dire, pour les présidents en exercice.
Et peu importe d'ailleurs.
Valérie Pécresse, elle lui a bien dit cette semaine qu'il fallait absolument qu'il vienne débattre, qu'il se déclare, qu'il serait temps de le faire.
Alors ça, c'est intéressant, parce que jamais aucun président n'a débattu, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, n'a débattu avant le premier tour, parce que les présidents ne débattent pas avec des hommes politiques en France, c'est comme ça, ils ne sont jamais devant l'Assemblée nationale. Ils sont au-dessus, ils ont été élus par les Français directement, donc ils ont un lien directement avec le Français. D'ailleurs, avec vous, c'est ça,
oui,
c'est vraiment le rapport entre la présidentielle, disait Gérald de Gaulle, c'est la rencontre entre le peuple, un homme et des circonstances. On oublie tout le temps, et des circonstances. Donc avec vous, c'est quand même... la négation de toute politique, hein. C'est vraiment il y a vous, il y a moi, et puis
avant ça marchait, aujourd'hui ouais. c'est avec vous. On va suivre tout ça et on va suivre cette semaine politique et puis surtout les résultats de cette primaire populaire. On suivra aussi la course au parrainage qui a été lancée officiellement cette semaine. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour recueillir les 500 signatures. Le Conseil constitutionnel fera un point deux fois par semaine. Il est déjà 18h58, c'est 20 secondes, c'est la fin de cette émission. Merci à tous, Rachid Lahirèche d'être venu, Lorraine Dupont, Jean Massier, Thomas Legrand. C'est terminé.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous ?
Tous les Français !
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République, vive la liberté,
vive l'écologie,
et surtout, surtout,
vive